prochaine histoire.
Salut à vous toutes et à vous tous, c'est Doé qui vous raconte toujours et encore des histoires. Et aujourd'hui, comme depuis quelques semaines, eh bien nous continuons notre série autour des mille et une nuits, des contes et légendes des mille et une nuits. Aujourd'hui, l'histoire s'intitule « Le coffre volant ». Coffre volant. En toute une vie de labeur, un marchand de Surat avait accumulé de grandes richesses. Richesses qu'après sa mort, comme c'est souvent le cas, son fils unique, Malek, s'empressa de dilapider en fêtes, banquets et divertissements. La table de ce jeune homme, renommée dans tout le nord-ouest de l'Inde, était ouverte à tous, sans distinction de race ni de couleur. L'on y pouvait goûter les mets les plus rares, les vins les plus fins, y côtoyer les femmes les plus belles, y rencontrer les personnages les plus divers. Or donc un soir, un étranger en partance pour l'île de Serendib y soupa par hasard. Au cours du repas, la conversation roula sur les voyages, dont certains convives vantaient l'agrément tandis que d'autres en peignaient les dangers. Si l'on pouvait conclure Malek avec bonne humeur, traverser la terre de bout en bout sans risquer de mauvaises rencontres, je le ferais sur l'heure. Ces paroles suscitèrent l'hilarité générale à l'exception de l'étranger qui déclara gravement « Cela est possible, seigneur, ne vous en déplaise. » Les rires redoublèrent car cette affirmation avait tout l'air d'une plaisanterie. L'étranger n'insista pas, mais après le repas, prit son hôte à part. « Je voudrais vous montrer un objet de mon invention, lui dit-il. » Intrigué, Malek le suivit dans le caravansérail où il logeait. « Voyez ceci, poursuivit l'étranger en désignant un coffre de bois d'une facture assez ordinaire. « Ce sont vos bagages, je suppose, répondit Malek. « Point du tout, mon moyen de transport. » Et d'expliquer, eh bien, que ce coffre avait le pouvoir de voler, tout en précisant que ce n'était pas là l'effet d'une quelconque magie, mais d'un mécanisme dont il était l'auteur. Devant l'incrédulité de Malek, l'étranger lui proposa une démonstration. Ils transportèrent le coffre dans un champ voisin, là, loin du regard des curieux. L'étranger y prit place, actionna un levier qui se trouvait à l'intérieur et s'éleva dans les airs. Je vous laisse à juger de la stupéfaction de Malek devant ce prodige. Ayant exécuté un périple dans le ciel nocturne, le coffre atterrit à ses pieds. « Me croyez-vous à présent, dit l'étranger ? Cette machine n'est-elle pas le moyen le plus sûr de voyager sans risque ?» Tout en acquiesçant, Malek émit le désir d'en faire l'essai, ce qui lui fut aussitôt accordé. On lui expliqua comment procéder pour diriger l'appareil pourvu d'un grand nombre de ressorts et de rouages. Bientôt, il s'envola à son tour et en conçut un tel plaisir qu'une fois revenu au sol, il déclara « Vendez-moi cette machine, étranger, votre prix sera le mien. » La transaction fut rondement menée. Et dès le lendemain, Malek, dont cet achat avait précipité la ruine, fit sans regret son bagage pour s'en aller à l'aventure pour la route du ciel. Au terme d'un vol de 2 jours et 3 nuits durant lesquels désert, montagne et océan s'étaient succédés sous ses yeux, il aperçut une grande ville blanche où il décida de faire escale. Il se posa donc dans un bois voisin et, ayant dissimulé le coffre sous la végétation, poursuivit son chemin à pied. Comme il ignorait où il se trouvait, il s'enquit auprès du premier passant qu'il rencontra. « Comment se nomme cette ville, mon ami ?»« Ghazna. Et qui demeure dans ce palais là-bas que je vois briller sous le soleil ?» La princesse Skirin, fille du roi Bahaman, les oracles ayant prédit qu'elle serait séduite par un homme de basse condition, son père a fait édifier ce monument de marbre, gardé nuit et jour par des soldats en armes pour déjouer la prophétie. La princesse demeure tout en haut de la tour, dans un appartement dont son père seul possède la clé. Pour l'atteindre, le suborneur tant redouté devrait posséder des ailes d'oiseau ou s'infiltrer sous les portes comme la brise. Nanti de ses précieux renseignements, Malek parvint bientôt aux portes de Ghazna. Il dîna dans une auberge et s'apprêtait à regagner son coffre pour poursuivre son voyage, lorsqu'il remarqua un portrait de femme devant lequel brûlaient des cierges parfumés. Frappé par la beauté de son visage, il demanda à l'aubergiste « Mais cette personne, une déesse locale ?»« Ah, certes non, seigneur. Elle est aussi humaine que vous et moi, puisqu'il s'agit de la princesse Skirin. » La nuit suivante, Malek ne put trouver le sommeil, car le souvenir de ses traits, parfait entre tous, le hantait. « Si le peintre n'a pas flatté son modèle, j'épouserai cette femme, décida-t-il. » Et afin de s'en assurer sur l'or, il monta dans son coffre et le mit en marche.
صباح ومساء شي ما بينتسى تركت الحب أخدت الأسى صباح ومساء شي ما بينتسى تركت الحب أخدت الأسى شو بدي دور لشو عم دور على غيره في ناس كتير لكن بصير ما في غيره
Gagner la tour par la voie aérienne fut pour lui un jeu d'enfant. Il se posa dans une cornichonnée à la barbe des gardes, ces derniers ayant pour mission de surveiller les abords du palais, non les toits. Puis, à la faveur de l'obscurité, pénétra dans la chambre de la princesse par la fenêtre ouverte. Ce qu'il vit l'éblouit. Sur un lit de brocart reposait une créature mille fois plus belle que le portrait qui l'avait tant ému. En pensée, il la compara à une rose endormie sur un lit de mousse et tombant à genoux, il s'empara de sa main qu'il embrassa avec transport. Au mouvement qu'il fit, Skirine s'éveilla et fut fort effrayée de trouver un homme dans sa chambre. Elle voulut crier, mais saisie d'une brusque inspiration, Malek la devança. N'ayez crainte, madame, car je suis le prophète Mahomet. Le Très-Haut, vous prenant en pitié, m'a envoyé à votre secours. En devenant mon épouse, avant le suborneur promis par les oracles, vous déjurez la malédiction. Mais, protesta Skirine, stupéfaite, Mahomet n'est-il pas un vénérable vieillard à barbe branlanche ? Si fait, mais ne voulant pas vous imposer la triste compagnie d'un marbon, j'ai préféré revêtir l'apparence d'un jeune homme. Cela vous déplaît-il ? Un mot de vous suffit pour que prenne fin la métamorphose. Or la princesse, en dépit de sa surprise, n'était pas insensible à l'agréable physique de son visiteur. Gardez-vous-en bien, s'écria-t-elle, et ne voyez dans mes protestations qu'un respectueux étonnement. L'instant d'après, elle l'invitait à prendre place et appelait ses suivantes afin qu'elles apportassent boissons et confitures à l'auguste fiancé. Après une nuit pleine d'agréments en compagnie de Skirine, qui, quels que fussent ses charmes au premier regard, gagnait encore à être connue, Malek s'en alla plus épris que jamais. Il dépensa le peu d'argent qui lui restait en achats divers, si bien que la nuit suivante, il apparut à la princesse parée de somptueux atours, parfumée et couverts de bijoux. Elle l'attendait avec impatience, ayant fait préparer pour le recevoir un banquet digne d'un monarque. Une semaine passa en délices de toutes sortes. Chaque nuit, les deux amants ayant soupé parmi les champs et les danses des esclaves, donnaient libre cours à leur mutuel attachement. Dans cet instant divin, le rossignol se taisait pour ouïr leurs soupirs, et seul l'éclat de la lune pouvait se comparer à celui de la princesse transfigurée par le bonheur. Aux premières lueurs de l'aube, s'arrachant au bras de sa bien-aimée, Malek s'éclipsait, jusqu'au crépuscule vivant. Vint le jour où le roi, suivi de ses officiers, rendit visite à sa fille. Quelle ne fut pas sa surprise en la trouvant vêtue comme une jeune mariée. « Que signifie ceci ? » s'écria-t-il, saisant d'une brusque inquiétude. « Cela signifie, répondit Skirine, que le prophète est votre gendre ? » À ces mots, le roi s'effondra. « Honte sur moi, gémit-il, la malédiction s'est réalisée. Rien ne sert de lutter contre les décrets du ciel. » Mais la princesse fit tant et si bien qu'elle finit par le convaincre, avant de céder au désespoir de rencontrer l'élu de son cœur. « Vous constaterez par vous-même son essence divine, assura-t-elle. « Puissiez-vous dire vrai, ma fille ? » soupira Bahaman. « Car si c'est le cas, je ferai ériger une mosquée d'or pur pour remercier Allah de ses bienfaits. En revanche, si comme je le suppose, il s'agit d'un imposteur, je le tuerai de ma propre main. » Il attendit le soir avec résignation. Or, par hasard, un orage couvait qui éclata au coucher du soleil, si bien que les ombres nocturnes s'accompagnèrent d'éclairs et de tonnerres. Le roi troublé crut voir dans le déchaînement des éléments un effet de la colère céleste. « Allah se venge-t-il de mon incrédulité ?» se demande-t-il. Comme pour lui donner raison, la foudre s'abattit sur le palais à l'instant précis où Malek s'y posait. Ce fut donc dans le feu du ciel et le fracas de l'enfer que parut le jeune homme. Bahaman, saisi de crainte et de respect, tomba à genoux devant lui. « Ô grand prophète » s'écria-t-il, « qu'ai-je fait pour mériter l'honneur d'être votre beau-père ?» Malek, que la présence du roi avait tout d'abord décontenancé, se réjouit de ses bonnes dispositions. « Commandeur des croyants, rétorqua-t-il en le relevant, s'il est dans tout l'Orient un monarque digne de cet honneur, c'est bien vous, car votre piété n'a d'égal que l'étendue de vos vertus. À présent, embrassez votre gendre. » Le roi, éperdu de reconnaissance, s'empressa d'obéir. Cette nuit-là, les libations se prolongèrent fort tard, et lorsque Bahaman se retira, laissant les fiancés en tête-à-tête, rien ni personne au monde n'eût pu le faire douter de sa bonne fortune. » Cependant, dans son entourage, tous n'étaient pas dupes. Son grand vizir, entre autres, émit des réserves quant à la véracité de cette affaire. Il n'accordait pour sa part aucun crédit au soi-disant prophète et se fit fort de le démasquer. Malheureusement pour lui, quelques heures plus tard, une chute de cheval le terrassait, ce qui passa aux yeux de tous pour une punition divine. Dès lors, plus personne ne songea à mettre en doute l'identité de Malek et l'on se prépara dans la liesse générale à célébrer les noces de la princesse et du prophète. Des réjouissances d'un luxe inouï accompagnèrent la cérémonie. Et l'histoire eût pu se terminer ici si le souverain d'un état voisin n'avait choisi précisément ce moment pour envoyer un ambassadeur à Ghazna demander la main de la princesse Kirin. Lorsque cet ambassadeur apprit de la bouche même de Bahaman que sa fille venait d'épouser le prophète, il crut que l'on se moquait de lui. Il ne fut pas le seul. En réponse à ce qu'il prenait pour un cuisant affront, le souverain et conduit leva aussitôt des troupes pour envahir Ghazna. Bahaman, qui était pacifique, avait une armée inférieure en nombre et moins bien entraînée que son irascible voisin. Se sachant promis à une défaite certaine, il courut implorer l'aide de son gendre. « N'ayez crainte, le réconforta celui-ci. Le ciel sait reconnaître les siens. » La nuit suivante, laissant son épouse endormie, il s'en fut survoler les positions ennemies qui campaient à proximité de la ville. Les tentes des généraux étaient aisément reconnaissables aux drapeaux qui les surmontaient. Elles formaient un cercle autour de celles toutes tissées d'or où logeait le roi. Cette disposition servait les plans de Malek. Au sommet d'une montagne voisine, il emplit son coffre de cailloux, puis profitant des ombres nocturnes, déversa son chargement sur le palais de toile. On imagine sans peine l'épouvante des assaillants, surpris en plein sommeil par une pluie de pierres. « Sauf qui peut !» criait-il en courant en tous sens. « Nous avons défié Mahomet et il va nous exterminer !» Leur terreur fut telle qu'avant même d'avoir livré bataille, l'armée se replia en désordre, abandonnant sur place un butin considérable. Dès lors, victorieux sans avoir combattu, le peuple de Ghazna n'eut pas assez de voix pour célébrer son protecteur. Enivré par les milliers d'hommages qui montaient vers lui, Malek crut bon, par quelques nouveaux miracles, d'asseoir son prestige déjà immense. Ayant ouï dire que, dans le royaume de Chine, l'on embrasait le ciel par un procédé appelé feu d'artifice, il s'y rendit en secret, après avoir informé son épouse que le Très-Haut le rappelait à lui pour quelques jours. Puis, ayant acquis les ingrédients nécessaires, il fit annoncer par toute la ville que la 13e nuit de la 13e lune, les astres du firmament le viendraient saluer. L'on se doute que cette nuit-là, la population entière eut les yeux levés vers la voûte céleste. Elle ne fut pas déçue. À minuit tapante, l'obscurité s'emplit d'une myriade d'étoiles de toutes les couleurs qui n'étaient en fait que de la poix enflammée, lancée par Malek du haut des nuages. La démonstration dura près d'une heure, au terme de laquelle le prophète, ayant comme de coutume dissimulé son coffre dans la corniche, regagna son palais, auréolé de gloire. Jusqu'à l'aube, les rumeurs de la foule qui chantait ses louanges charmèrent ses oreilles, lorsque soudain, ce ne fut qu'un cri tout d'abord. « Regardez !» Ce cri s'amplifia, devint semblable au grondement de la mer. Des mains se tendirent. « Regardez, regardez, une gerbe de flammes couronne le palais. C'est encore un miracle d'Allah !» Malek, surpris et voulant voir de quoi il retournait, s'empressa de descendre dans la rue. Et là, un frémissement d'horreur le parcourut, car ce que le peuple de Ghazna prenait pour un nouveau miracle n'était autre que le coffre achevant de se consumer. Un brandon avait dû s'y glisser durant le feu d'artifice qui, se développant, l'avait réduit en cendres. Dès lors, Malek, privé de l'engin qui faisait sa fortune, s'enfuit comme un voleur. Il court toujours, sans doute, Quant à Skirin, après avoir longuement pleuré la perte de son époux, elle fut érigée un temple magnifique dans lequel, jusqu'à sa mort qui survint à un âge avancé, elle entretint la flamme de la sérénité en souvenir de lui. Aujourd'hui, je vous ai raconté le coffre volant, encore un épisode des mille et une nuits. Je n'aurai pas assez de temps pour vous raconter les mille et une histoires, mais j'en ai fait un choix d'une dizaine là, et ce sera déjà pas mal. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une dernière histoire des contes des mille et une nuits. Ciao, bye bye, c'était Doé qui vous racontait toujours et encore des histoires.